Les ondes culturelles.
Un magazine en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Les Ondes Culturelles, une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides, diffusée sur Radio Albigès et CFM Cordes. Les 4, 5 et 6 octobre prochains, au Centre d'Art du Verre de Carmaux, se tient la Biennale des Verriers, l'occasion pour nous d'aller voir un peu plus près à quoi ressemble le musée. Nous avons eu le droit à un accueil chaleureux et à une visite guidée par le directeur en personne, Laurent Subra. Nous entrons dans l'antre du musée Centre d'Art du Verre en compagnie de Laurent Subra, directeur. Bonjour Laurent.
Bonjour. Donc là, on commence donc par le premier niveau, donc dans lequel nous présentons des expositions temporaires tous les ans. Donc c'est un lieu, les trois quarts des espaces scénographiques du musée changent tous les ans. Donc on réinvente un nouveau musée dans sa quasi-totalité chaque année. Seules les parties historiques restent fixes. Donc là, c'est une exposition consacrée au design et aux arts décoratifs finlandais, des créations contemporaines, donc toutes réalisées entre 2005 et 2010, à Riihimäki, en Finlande.
On voit les poissons, c'est un symbole de la Finlande, le poisson ?
Oui, la nature en général, souvent les oiseaux, le parc animalier finlandais mis en valeur et les formes aussi très géométriques, empruntées à la nature, très sobres et purées.
Sobres et purées, mais en même temps extrêmement colorées. C'est une particularité finlandaise ?
Oui, oui, oui. On parle de design festif en Finlande. Donc l'usage des couleurs, la mixité des techniques aussi, très variées, font partie des spécificités du travail du verre en Finlande.
Par exemple, quelles techniques sont employées dans...
Ils utilisent toutes les techniques. Et ce qui est vraiment particulier en Finlande, c'est le fait de voir dans les usines de fabrication pour en grosse série ou moyenne série, l'usage de techniques ancestrales réinterrogées et adaptées à des modes de production en grande série. Et souvent, donc ça ne se fait plus du tout en France. Aujourd'hui, c'est vrai que les verreries en France produisent soit de la bouteille très particulière ou comme à la VOA, à la verrerie ouvrière à Albi. Mais on ne trouve plus de verriers à la canne ou qui travaillent à la canne ou ce genre de technique ancestrale dans nos verreries en France. Par contre, en Finlande, c'est mélangé. On va retrouver dans les usines des verriers en train de tester de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés.
En revanche, c'est quelque chose que recherche justement le Centre d'Art du Verre, à retrouver les anciennes techniques, les remettre peut-être au goût du jour.
Oui, voilà. Lorsqu'on recherche, on ne fait que suivre les verriers, en fait, dans la suite de l'histoire du travail du verre artisanal. Donc, et c'est vrai qu'en ce sens, le design finlandais est représentatif de l'ensemble des usages des techniques ancestrales remises au goût du jour.
Ces objets-là, ils sont à vendre ou juste en exposition ?
Là, juste en exposition, parce que ce sont les collections du Musée national de Finlande. Par contre, la plupart de ces objets sont produits par des verreries, comme la verrerie Itala, qui vend un peu partout dans le monde, dans les boutiques de design. Donc, essentiellement, là, du verre d'usage, du type verre ou vaisselle ou objet d'usage, oui.
Les verriers en fait travaillent rarement uniquement en tant qu'artistes plasticiens. Ils sont généralement aussi sur des choses un peu plus utiles.
Oui, là c'est vrai que pour la production en Finlande, là, c'est une production artisanale essentiellement. Après, il y a un travail de sculpture aussi qui est fait, qui est réalisé. Ça se faisait à l'époque en fait, en France aussi, à l'époque de la Révolution industrielle, dans les verreries de Carmaux notamment. Donc, où les verriers avaient le loisir sur leur temps de pause de produire soit des objets pour eux ou des objets de décoration. Donc, c'est ce qu'on appelait les bousillers. Donc des petits animaux, des sculptures, où on a besoin d'un vase pour la maison, donc on a fait un, voilà. Bon, ça se fait plus du tout aujourd'hui, avec les machineries, on n'a plus accès, les hommes n'ont plus accès directement au verre. Voilà. Mais c'est une tradition qui se perpétue en Finlande.
En fait, ils récupèrent des chutes de verre ?
Oui, voilà, oui, avec des chutes où ils ont le droit d'utiliser voilà, les matériaux. Et en même temps, ça permet de faire des essais pour de nouvelles techniques, pour les objets, travailler en collaboration avec les designers ou designer directement par les verriers.
Et ça, en France, ça n'existe plus du tout ?
Non, là, c'est vraiment circonscrit à des centres de création comme à Carmo ou le Cirva à Marseille ou à Maisenthal. Où effectivement des ateliers produisent des objets plutôt en moyenne série ou moyenne série, comme c'est le cas à Maisenthal, qui fabrique toujours des boules de Noël en verre. Voilà, donc là, des verriers produisent des objets manufacturés en moyenne série. Des plasticiens viennent travailler avec les verriers aussi. Voilà, ça se passe plutôt dans ce genre de lieu aujourd'hui en France, mais plus dans les usines.
Et du coup, alors pour l'évolution du verre français, c'est les musées qui sont à l'origine de cette évolution. Les usines, elles se contentent de reproduire des choses qui existent déjà.
Non, pas vraiment. C'est-à-dire, bon, par exemple, à la VOA, c'est vrai qu'on a une verrerie qui s'est spécialisée vraiment dans le design de la bouteille. Donc les spiritueux ou le vin, donc je sais qu'ils produisent le vin d'Angelina Jolie et Brad Pitt, enfin les bouteilles pour les vignobles d'Angelina Jolie et Brad Pitt, ils ont designé une bouteille spécialement pour eux en fonction de leurs envies, de leur goût. Voilà, donc il y a aussi un travail sur la forme qui peut être fait dans les verreries, mais on n'utilise plus les techniques ancestrales. Là, on peut voir la démarcation donc des fondations du bâtiment, donc, puisqu'on est dans le bâtiment de l'ancienne verrerie royale de Carmont.
L'atelier, quoi.
Voilà, c'était vraiment la première verrerie à charbon du sud-ouest, donc ici à Carmont. Donc on voit bien la démarcation. Là, on entre dans un autre univers quand on passe au sous-sol.
Et quand on dit royal, c'était eux qui approvisionnaient le roi de France, en fait.
Au XVIIIe, c'est le Louis XV qui donnait... l'art de la verrerie était régi par le roi. Donc, ça, c'est un héritage des 9 rois de France qui sont succédés et ont veillé aux droits et aux obligations des gentilshommes verriers. Donc, le métier de verrier était le seul métier que les nobles pouvaient exercer sans déroger au roi. Et les gentilshommes verriers dans le Tarn, dans tout le Languedoc, bénéficiaient d'avantages comme le droit d'utiliser le bois des forêts sans condition, l'absence de taxes, voilà, parce qu'ils avaient un savoir-faire que eux seuls pouvaient transmettre et apprendre à la génération en génération. Et donc le fait de verrerie royale, parce que c'est sans l'autorisation du roi, on ne pouvait pas ouvrir de verrerie. Et donc à l'époque de la famille de Solages au XVIIIe, c'était le début des verreries à charbon. Donc la fin des verreries forestières et le début des verreries à charbon.
Le verre s'use, à part le fait d'être cassé, il y a l'érosion et le reste, le temps peut user du verre ?
Oui, c'est vrai qu'on parle souvent d'éternité vis-à-vis du verre parce que c'est un des matériaux peut-être les moins fragiles par rapport aux métaux, aux tissus, aux textiles. Mais malgré tout, après, tout dépend de sa composition physico-chimique et du mélange avec lequel il a été fait. C'est vrai que les verreries antiques aujourd'hui s'effritent, donc avec des phénomènes d'irisation la maladie du verre, ce qu'on appelle la maladie, en fait, c'est tout simplement sa composition qui fait qu'au bout d'un moment, au fil des siècles, il finit par redevenir poussière. Voilà. Mais bon, c'est vrai que le verre ne craint pas l'humidité. Par contre, les variations climatiques, oui. Ça, la variation de température, le verre n'aime pas du tout. Donc pas de choc, sinon il peut exploser. Un verre très ancien. C'est l'exposition dentelle de verre. Dans le cadre d'un projet collaboratif à l'échelle du département, donc initié par la conservation départementale des musées. Une exposition consacrée au verre et à la dentelle. et décliné dans sept sites et musées du département, comme au musée du Sceau du Tarn, musée Mines, château musée du Caïla. Donc là, c'est le travail de Jean-Charles Millot et Laetitia Andrietto, que nous avons reçu en résidence spécialement pour créer ces pièces.
D'accord, donc tout ce qui est ici a été créé ici.
Voilà.
Et alors là, ce sont des incrustations de tissu ?
Oui, c'est du tissu. Alors, c'est du textile fossilisé dans du verre et rapporté à chaud sur des pièces soufflées, ce qui donne une sensation, une impression de... À la fois, on voit toujours le tissu, on sent le textile, et en même temps c'est du verre.
Et ce qui fait que l'impression de la lumière... Enfin, projeté, ça donne un effet dentelle lumineux. Le sable au sol, c'est volontaire, j'imagine ?
Oui. Donc, dans les sous-sols du musée, vous marchez sur des passerelles en bois et entourées de sable, puisque le sable, la silice, est l'élément premier pour fabriquer du verre, puisque le verre est composé à 75% de silice.
Et j'imagine que le sable était trouvé sur place ?
Oui, extrait des carrières et essentiellement sur place ou acheminé aussi éventuellement. Mais c'est vrai qu'à l'époque des verreries forestières, en tout cas, le besoin premier, c'était le bois, le combustible. Donc, il fallait d'abord être près du bois et idéalement à proximité d'une carrière pour pouvoir extraire du sable. De vases communicantes entre des poches de verre dans lesquelles se trouve de l'eau salée. Et donc avec un système de pompe, l'eau navigue entre ces différentes poches. Des capteurs électriques placés dans les poches en verre enregistrent les variations électriques dues au mouvement de l'eau salée, puisque l'eau salée conduit l'électricité. Et ces variations électriques sont renvoyées à ce petit appareil qui est l'équivalent d'un synthétiseur analogique en fait, qui produit des sons, transforme ces variations électriques en sons. C'est assez ludique, ça plaît beaucoup aux enfants qui visitent le musée. Ça marche beaucoup avec les scolaires.
Jean-Claude est un poisson rouge.
Voilà.
Dans une, on croirait que c'est une poche de plastique, mais c'est une poche de verre.
Voilà, c'est une poche de verre donc, qui sert d'aquarium à Jean-Claude, le poisson rouge. Donc, pour une pièce de d'Anne Donzé et Vincent Chagnon, qui est une pièce... qui est assez critique aussi en même temps, qui parle de la vie, des conditions de la vie, là, de la façon de l'enfermer. Alors c'est vrai que c'est une pièce qui peut déranger les gens, parce qu'on est dans un musée et qu'on présente un poisson rouge. Bon, c'est un aquarium au final. Mais le fait qu'on soit dans un musée, le contexte peut déranger certaines personnes. En même temps, Jean-Claude va très bien. Il est nourri. On va lui changer son eau, là, d'ailleurs, cet après-midi. Et voilà. Et après, malheureusement, les poissons rouges, il y a de fortes chances qu'ils finissent aussi dans un aquarium. Après l'exposition aussi. Mais bon, on va essayer de lui trouver une petite mare sympathique.
Oui, il a l'air d'être en pleine forme, d'autant qu'il a échappé à l'énorme hameçon qui est juste au-dessus de lui. Et je pense qu'il ne ferait pas long feu.
Pour pêcher le requin, on les a fait venir du Canada.
Ce sont des vrais hameçons.
Des hameçons à requin, oui. Donc assez impressionnant. Oui. Ouais.
Il faut au moins 40 cm de haut. Au bout d'une petite heure de visite, nous avons réalisé qu'il était peut-être temps de parler de la Biennale des Verriers qui se tient les 4, 5 et 6 octobre prochains sur le site même de la verrerie, puisqu'après tout, j'étais venue pour cela.
Donc Biennale des Verriers, volontairement, ça ne s'appelle pas Biennale du Verre, mais Biennale des Verriers, puisque l'idée c'est de vraiment de rendre hommage aux verriers, à leur travail et à l'ensemble des techniques artisanales du travail du verre. Donc c'est la Biennale des Verriers, c'est une grande expo-vente qui réunit 50 verriers venus d'un peu partout en France, en Europe, même au-delà. Donc le principe de la Biennale, c'est vrai que On peut rêver en voyant de très très belles pièces, pas accessibles pour tout le monde, pour certains collectionneurs oui, et en même temps on peut se faire plaisir et acheter un petit objet, un petit bijou, quelque chose de, voilà, de accessible pour tout le monde. Donc c'est à la fois un salon très populaire, 9000 visiteurs lors de la dernière édition en 2011, et en même temps connu et reconnu dans le milieu du verre pour être un très bon salon, de très bon niveau par rapport à ce qui est présenté. Voilà, donc c'est 3 jours de fête du verre avec des ateliers auxquels les visiteurs peuvent s'inscrire. Il faut s'inscrire au préalable aux ateliers, des démonstrations de toutes les techniques du travail du verre, le chalumeau, le verre soufflé. Voilà.
Alors l'exposition, elle se fait dans le gymnase?
Voilà, donc au domaine de la verrerie, tout se passe ici, entre le musée et la salle du gymnase, donc sur 1000 m², vous découvrez les 50 verriers, les 50 exposants, et des animations sur le domaine de la verrerie. Voilà.
Et c'est l'occasion aussi d'aller visiter le Centre d'Art du Verre.
Voilà, tout à fait.
Anne Donzé et Vincent Chagnon, verriers en résidence au Centre d'Art du Verre de Carmaux, seront présents lors de la Biennale des Verriers du 4 au 6 octobre prochain. Tous les deux, vous êtes en résidence permanente au Centre d'Art du Verre en tant que souffleur de verre.
On est là en tant que créateur verrier et on est là pour 6 mois.
Et après, vous serez remplacé par d'autres créateurs ?
Normalement, il y a d'autres résidents, ouais, de nouveaux résidents.
À chaque année, il y a un appel de dossier. Donc, on présente un projet artistique et c'est la meilleure qui est choisie.
Et alors
Donc, chaque année, ouais, c'est deux nouveaux artistes qui sont en résidence pour la saison estivale.
Donc, vous avez présenté un projet qui a plu à donc, Monsieur Subra. Et donc, pendant ces 6 mois-là, non, vous êtes encore là 6 mois, c'est ça ? Donc vous restez en tout, voilà. Pendant 2 ans, vous réalisez le projet que vous avez proposé au musée.
Oui, exactement, ouais. Et nous, notre projet, il a consisté plutôt à mélanger 2 techniques. Donc moi, je suis spécialisée en pâte de verre, Vincent est spécialisé en verre soufflé, donc on mélange nos 2 techniques pour réaliser nos projets.
Alors là, ce que j'ai vu, c'est une sorte de petite figure humaine à l'intérieur d'une bulle. C'est une nouvelle création ?
Ça, c'est un personnage en pâte de verre, justement, qu'on a enfermé dans une bulle de verre soufflé. Donc ça, c'est pour la résidence de l'année prochaine. Il va y avoir un assemblage de plusieurs bulles avec certaines des personnages.
Voilà, parce qu'il faut préciser que c'est eux qui ont enfermé le poisson rouge dans la poche de verre.
Il n'est pas enfermé, le poisson rouge, d'accord ? Et on lui change l'eau aux 2 jours et il mange très bien. Il s'appelle Jean-Claude, d'accord ?
Mais oui, on l'a vu tout à l'heure et il était en super forme. Et alors le deal, en fait, c'est que vous êtes libre de votre création. On vous laisse à disposition un atelier et vous êtes disponible pour les visiteurs.
Oui, c'est un peu ça. Ouais. Il y a comme un deal pour faire la démonstration, la production pour la boutique du musée et à côté nos projets artistiques également. Ouais.
Alors j'imagine que vous n'avez jamais froid ?
Non, ça c'est sûr que non. La grande question qu'on pose aux verriers.
Et vous serez là pendant la biennale, vous allez partager votre atelier avec d'autres verriers ?
Alors on sera là pour la biennale, on aura un stand et il y aura aussi d'autres souffleurs de verre qui seront présents sur le site qui vont venir nous rendre visite à l'atelier.
Et alors vos créations que vous faites là pendant 2 ans, elles vous appartiennent ou elles appartiennent au musée ?
Les idées nous appartiennent, mais les pièces appartiennent au musée. Ouais.
Donc pendant 2 ans, vous ne produisez rien pour vous-même, pour une potentielle exposition ?
On produit. C'est pas vraiment qu'on produit rien, parce qu'en fait, on produit notre book qui va être en image, mais qui nous permet et ensuite de développer une technique et ensuite de pouvoir nous vendre par la suite. Donc on n'a pas quelque chose de matériel, on va dire, à la fin, mais en tout cas, une belle expérience. Donc.
Parce que c'est un passage assez référencé dans le milieu de la verrerie, le Centre d'Art du Verre de Carmaux.
Oui, quand même, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, y a pas beaucoup de centres qui proposent déjà des résidences. Et le Centre du Verre de Carmaux commence à être bien reconnu. Donc oui, c'est une belle opportunité.
Alors vous êtes essentiellement plasticien ?
Non, on n'est pas plasticien. On est artisan verrier, créateur, parce qu'on essaye de sortir un petit peu du... Enfin, on essaye de créer, surtout de continuer à créer. Mais plasticien, c'est des grandes interrogations. Qui est plasticien? Qui est créateur? Qui est...
Juste reprendre madame, on n'essaie pas, on crée. Hein,
c'est vrai.
Ah, d'accord.
Mais alors, alors, je vous ai observé un petit peu tout à l'heure, là, juste l'espace de 3 minutes sur la fin de la pièce, et vous vous donniez des ordres. Alors, vas-y, vous vous encouragiez. Est-ce qu'il y en a un qui est... Parce que vous formez l'un sur la technique de l'autre, ou comment ça se passe, votre échange?
En fait, Anne, c'est la pâte de verre. Donc, quand c'est le moment de faire de la pâte de verre, Anne m'enseigne la pâte de verre. Et quand c'est le soufflage, c'est moi qui lui enseigne. Donc
à l'issue, vous serez les deux, vous ferez les deux métiers.
Oui, les deux métiers. Oui, tout à fait.
Mais alors, comment se passe une création à deux? Parce que c'est quand même une technique très... Il faut être assez efficace et assez rapide, puisque ça refroidit vite, j'imagine. Comment ça se passe quand vous faites la création à deux? Vous décidez en amont de ce que vous allez faire, ou vous le faites au fur et à mesure?
En fait, c'est un peu tout parti sur des idées qu'on a eues... ensemble, en parlant ensemble, et puis après on a développé par dessin, on a fait des essais, donc après on se met d'accord sur les essais, et puis voilà, après on essaye de fonctionner à deux avec joie.
Voilà. C'est pas, on fonctionne à deux, Anne. D'accord, je reprends madame.
Et alors ça sèche très vite le verre une fois que c'est chaud, ou vous avez le temps quand même de manipuler le...
Tout dépendant de la masse de verre qu'on a, c'est environ 30 secondes à 1 minute de travail. Ensuite, on doit retourner chauffer dans un four de réchaud pour le manipuler à nouveau. Donc, on fait toujours le lien entre le banc de travail et le four de réchaud.
En fait, en plus d'être... ça fait transpirer, mais aussi parce que vous êtes toujours en train de courir, en fait.
Courir, oui et non. En fait, je vous invite à venir voir, le four de réchaud est à 1200 degrés. Donc devant ce four, veux pas, ça rayonne, donc on en prend plein la gueule.
Oui, parce que vous vous habillez chaudement en fait pour entrer dans le four, mais c'est surtout pour vous protéger.
Oui, le dernier four que vous avez vu, le four de recuisson, il est chauffé à 515 degrés. Et en plus, quand on amène une pièce dedans, des fois on est amené à rester, on reste pas juste 10 secondes, donc il faut pouvoir se protéger un petit peu, ouais.
Et alors, la technique de la pâte de verre, c'est pas chaud? Oui, si un...
La technique de la pâte de verre, c'est comme un travail d'un fondeur. Donc on travaille une cire qu'on coiffe dans du plâtre réfractaire. On évite la cire avec de la vapeur d'eau. On garnit le moule de plâtre avec du verre concassé, qu'on refait réchauffer dans un four jusqu'à 900 degrés. Donc après, ça prend la forme de la cire et on a l'objet en verre.
Donc là, la création est beaucoup plus lente, finalement. Elle permet beaucoup plus de temps.
C'est vraiment un autre procédé, en fait, de sculpture de cire, où là, on peut passer beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures, ça c'est sûr. Alors que le travail à chaud, c'est beaucoup de pratique. C'est une technique qui est longue à apprendre, mais après, en réalisation, c'est quand même beaucoup plus rapide que la pâte de verre.
Et est-ce que vous avez des horaires précis pendant la biennale où vous serez intervenant dans l'atelier?
On sera là tous les après-midi, ça c'est sûr. Et après, le reste du temps, je ne sais pas, on n'a pas encore défini l'horaire, mais en tout cas, tous les après-midi, vous nous verrez.
Voilà. Ou à l'atelier, ou dans le gymnase, parmi les exposants.
Temps numéro 3.
Rendez-vous les 4, 5 et 6 octobre prochains à Carmo, au Centre d'Art du Verre, pour la Biennale des Verriers. Renseignements sur www.museever-tarn.com. Belle journée à tous, bonjour à toute l'équipe de Radio Albigès, et à la semaine prochaine.
Les ondes culturelles.
Un magazine en partenariat avec le Pays de l'Albigeois et des Bastides.